Voilà, merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, même si j'ai un petit peu hésité au départ à venir devant le sujet. Mais enfin, il y a quand même des choses que j'enseigne en partie dans ce que je vais vous présenter. Et puis aussi, c'est un grand plaisir parce que, comme on l'a déjà vu avec les orateurs précédents, il y a beaucoup à réfléchir. Alors, peut-être que j'espère qu'il y aura quelques réponses aux questions qui ont été posées, peut-être parfois des désaccords avec des choses exprimées. Tout ça, ça fera l'objet des questions. Je sais que mon exposé, j'ai dû supprimer des transparents. Alors, je sais que je vais arriver au bout de mon temps sans qu'il y ait véritablement de possibilité pour les questions ce matin, mais je serai à la table ronde cet après-midi. Donc, mon exposé va se structurer ainsi. Après une toute petite introduction, je vais essayer de mettre le doigt premièrement sur une sorte d'incompatibilité qui existe entre le hasard et la physique. Et puis, après cela, j'aborderai le thème du hasard en physique classique. Je n'ai pas voulu me limiter à la physique quantique, parce que je crois que si on veut vraiment apprécier le sujet, il faut d'abord parler du hasard en physique classique. Et puis ensuite, on verra un tout petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui du hasard à la lumière, si j'ose dire, de la mécanique quantique, et voir peut-être même comment cette meilleure appréciation du hasard que l'on peut avoir donne lieu même à des applications et à un futur extrêmement stimulant et intéressant. Ça sera très bref. Et puis ensuite, il y aura une conclusion et une confession de foi. Alors voilà ma définition du hasard. Bien sûr, j'ai aussi vérifié quelques dictionnaires pour voir que ça n'était pas en conflit. Et il est clair que l'acception dans laquelle j'utiliserai ce mot, c'est celui d'une cause virtuelle, imaginaire, qui couvre en fait le fait que la véritable cause d'un événement n'est pas identifiée. Alors, un petit peu d'histoire, c'est un concept qui est déjà très ancien. Aristote, dans la métaphysique, discute déjà du hasard. En science, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Ça a commencé en mathématiques avec la théorie des jeux, des statistiques, des probabilités. Et là, peut-être un nom que l'on peut citer, c'est celui de Blaise Pascal, qui, suivant les mathématiciens, dans son travail, on trouve le début de la notion de probabilité. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans son travail, ses travaux, il appelle ça la géométrie du hasard. Et puis, à la suite de cela, il y avait encore un précurseur que j'ai noté ici. À la suite de cela, beaucoup de mathématiciens, de physiciens éminents ont approfondi, en fait, les mathématiques du hasard. Et souvent, la physique du hasard, souvent, ces gens-là sont à la fois des mathématiciens et des physiciens. Aujourd'hui, l'application des lois du hasard, ce n'est pas une petite chose. On le retrouve. Alors, les lois du hasard, par cela, j'embrasse évidemment la théorie des probabilités, mais aussi la théorie des jeux. C'est un élément extrêmement important dans un grand nombre de sciences appliquées. Et parfois même avec le développement de mathématiques qui sont propres pour certaines de ces applications. Alors là, on note la physique dès le 19e siècle, la finance, l'économie dès 1900, les sciences politiques, la biologie et même la philosophie. Peut-être une distinction importante entre statistique et probabilité. C'est des cousins où la statistique, c'est peut-être le début de l'étude de probabilité, en ce sens que c'est la science qui consiste à recueillir, traiter, interpréter et présenter un ensemble de données. Tandis que la théorie des probabilités, c'est l'étude mathématique des phénomènes ou jeux caractérisés par le hasard et l'incertitude. En quelque sorte, peut-être par l'étude statistique d'une collection de phénomènes, on arrive à déterminer ce que pourrait être une loi de probabilité. Puis ensuite, en supposant ces lois de probabilité, on peut avoir d'autres conséquences, etc. En quelque sorte, les statistiques, c'est le, je dirais, c'est la partie expérimentale de l'étude mathématique du hasard. Je passe maintenant au deuxième aspect. Qu'y a-t-il dans le hasard qui froisse les physiciens ? Alors, je commence en fait par une citation par Warren Weaver, qui en fait était un scientifique, politicien américain éminent dans la première moitié du XXe siècle. Il a fait des recherches en traduction automatique. Avec Claude Shannon, il a signé la théorie de l'information. Et c'est aussi l'inventeur du terme de biologie moléculaire. Il était responsable de la fondation Rockefeller. Et il dit « La théorie des probabilités et la statistique sont deux domaines importants intégrés à nos activités d'assurance, intégrés à nos activités quotidiennes. Le monde de l'industrie, les compagnies d'assurance sont largement tributaires des lois probabilistes. » Je reviens un tout petit peu à ce que je disais. Là où je suis un petit peu moins d'accord, la physique elle-même est de nature essentiellement probabiliste. Alors ça, on le verra. Il en est de même des fondements de la biologie. Alors, quel est le but de la physique ? Eh bien, le but de la physique, il est presque inverse de celui de vouloir invoquer le hasard à tout bout de champ. Le but de la physique, c'est de discerner les liens systématiques de cause à effet à partir de l'observation d'événements naturels et élaborer des concepts et des lois. Il s'agit de relier des causes et des effets. L'observation des événements, dont je dirais le chaos de départ de l'inconnaissance, livre généralement des récurrences, des corrélations, c'est-à-dire le début de quelque chose qui est autre chose que le hasard, ou mieux des séquences temporelles systématiques ou un ordre spatial dans une série d'événements. Et ceci, en fait, l'identification de ces schémas forme l'essence de l'ébauche d'une science à partir du chaos hasard de l'inconnaissance. Donc, le déterminisme, en quelque sorte l'anti-hasard, hein, c'est-à-dire l'absence totale de hasard, apparaît ainsi comme l'achèvement naturel idéal d'une théorie de la connaissance. Et idéal du programme ontologique de la physique qui consiste à trouver des lois. Le contraire du déterminisme, le hasard total, si on doit le constater, ça apparaît nécessairement comme l'échec d'un tel programme ontologique. Et entre deux, on pourrait parler des lois du hasard, parce que les lois du hasard, c'est pas le hasard total. Ça veut dire qu'on a une distribution de probabilité, on peut commencer à dire quelque chose. C'est en fait un état de connaissance partielle des choses, où on suppose qu'on connaît au moins quelque chose, on connaît au moins une moyenne, on connaît au moins un écart type, ou quelque chose de plus précis. Poincaré disait des lois du hasard que c'était une stupidité. Enfin, le mot était une stupidité. Et effectivement, c'est vrai. En fait, les probabilités, les lois du hasard, c'est plutôt la théorie de la connaissance partielle. C'est pas les lois du hasard. Alors, de la physique, maintenant. La physique, elle essaye justement de comprendre la réalité, mais la réalité matérielle... son principe, en fait, c'est tout d'abord d'isoler les systèmes les plus simples, les plus élémentaires possibles, et tout d'abord de les isoler. En quelque sorte, on va parler de théorie des systèmes fermés et des systèmes fermés les plus petits possibles, impliquant que le champ des causes à effet doit être limité à l'intérieur de ce système et ne fait rien d'intervenir d'extérieur. Et ces systèmes, si possible, doivent être suffisamment simples pour être entièrement décrits de manière parfaite par les lois que l'on va peut-être essayer de mettre sur pied pour les comprendre. Et maintenant, de la nature justement de ces systèmes simples, un système, il faut différencier le système et les états de ce système. C'est une première étape de l'approche. Par exemple, pour une masse ponctuelle, on a la masse, et puis ensuite, on a son état. Et par exemple, on va dire, ben, cette masse ponctuelle, elle a une position, elle a une vitesse, et bien ça va être l'état de cette masse. Donc un système, on associe ces états, et puis ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est le changement de cet état au cours du temps. Donc ça, c'est une méthodologie qui s'applique hein, autant en classique qu'en quantique. Et le temps, ça va être le paramètre qui repère la séquence d'état du système au cours du temps. Et au cours de son mouvement, pardon. Parce qu'en fait, notre conception du temps est essentiellement liée au mouvement. Tous les systèmes qui mesurent le temps, en quelque sorte, ils partent du mouvement pour identifier le temps. Si vous avez le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la récurrence, quelque part, à la même position lors du mouvement de l'objet qui va nous fixer le temps. Si on a une horloge atomique, c'est la même chose, ça va être l'électron autour de... Donc, je dirais, la notion de temps est très liée à la notion de mouvement et l'évolution d'un système est aussi très liée à cela. Alors maintenant, une découverte fondamentale de la physique... Alors c'est avant le 19e siècle, hein, c'est déjà Newton. On a découvert que pour les systèmes simples, pour lesquels on pouvait formuler des lois simples, il y avait une universalité de la réversibilité des équations du mouvement. Alors ça a été formalisé beaucoup plus tard par Wigner en 1930. En quelque sorte, si j'ai la solution pour l'évolution d'un système, eh bien, il existera pour la même équation, sans rien changer, une solution qui va en sens inverse. Alors, ça, il faut faire attention, hein, ça ne signifie pas qu'on peut remonter dans le cours du temps. C'est juste que mathématiquement, il existe cette symétrie. Et cette symétrie subsiste en mécanique quantique. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater sur toute la physique qui a été développé jusqu'à la mécanique quantique et même à l'intérieur de la mécanique quantique, parce qu'ici je mets les équations fondamentales de ces systèmes simples, les équations de Newton, les équations de Maxwell pour l'électrodynamique, l'équation de Schrödinger pour la mécanique quantique, sont des équations dynamiques qui décrivent l'évolution de l'état d'un système dans le temps. Eh bien, toutes ces équations dynamiques, elles ont tout d'abord un temps qui est le paramètre continu de ces équations qui sont différentielles et elles sont toutes déterministes. L'unicité, en fait, alors là, je me réfère maintenant très brièvement au déterminisme de Laplace. Hein. Laplace a formulé, en fait, ce qu'est le déterminisme absolu avant même qu'on ait l'unicité prouvée des solutions dans le futur par Cauchy et Lipsy au cours du... Alors, c'est le 19e ici, le 19e siècle. Donc, toutes ces équations sont des équations qui sont totalement déterministes. La connaissance du présent détermine absolument le futur. Il y a une causalité totale et elles satisfont pleinement au programme ontologique de la physique. Donc, ça, c'est un succès, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui... En tant que chrétien, moi, ça m'émerveille que l'homme soit capable de trouver quelque chose comme cela. Et certainement, ça a aussi émerveillé Newton. Alors, je trouve qu'il faut lire cette phrase de Laplace, qui était d'ailleurs dans la convocation. Hein. Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers, il était astronome, et ceux du plus léger atome. Donc lui, il croyait déjà dans l'atome, en fait, on y croyait déjà au 18e, rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. L'esprit humain offre, dans la perfection qu'il a su donner à l'astronomie, une faible esquisse de cette intelligence. Et intéressant, il dit ça dans un essai sur les probabilités. Hein. Et ceci, ça va même être récurrent, on va le voir. Maintenant, je reviens sur en quelle sorte, après avoir dit que la physique essayait d'évacuer le hasard, pourquoi est-ce qu'elle l'a fait re-rentrer ? Et peut-être quelles sont les découvertes qu'on a pu faire dans le cadre de la physique classique, les découvertes importantes. Alors, en fait, le hasard, on doit le faire réintervenir en physique quand on s'intéresse aux systèmes plus complexes que les systèmes élémentaires. Alors, par plus complexe, je veux dire que au début, on avait une appréciation du complexe sans savoir ce qu'il y avait dessous. Ensuite, on s'est dit que le complexe est nécessairement formé des systèmes élémentaires que l'on a à disposition. Donc ça, c'est l'acception dans laquelle je prendrai le terme complexe. Et là, on peut différencier deux cas principaux. Tout d'abord, on passe du petit système isolé vers le système qui n'est pas isolé, c'est-à-dire qui va être en interaction avec un environnement qui, lui, est complexe. On appelle ça aussi parfois en physique un réservoir, donc un autre système qui est très complexe. Donc la dynamique, c'est un petit peu ceci. On garde le petit système, mais il y a un gros truc qui, en quelque sorte, donne une multitude de causes pour des variations dans le système plus petit. Alors, un exemple que je vais donner juste après, c'est le mouvement brownien. Soit le système simple lui-même devient complexe, peut-être parce qu'on le complexifie, en disant ça c'est notre système, mais on ne va pas pouvoir parler de sous-système. On a un gros système qui est constitué d'une multitude de systèmes simples. Et alors, le problème c'est qu'on ne sait pas traiter ces systèmes-là, et en général, on ne va pouvoir suivre le mouvement, en quelque sorte, que de quelques grandeurs moyennes, par exemple, caractérisant ce système plus simple. Donc là, c'est l'idée. On passe d'un système plus petit à un système plus grand, mais maintenant, on ne peut pas tout garder. Donc, on va essayer de garder une connaissance de certaines choses sur lesquelles on va pouvoir faire une prédiction. Et on va essayer d'écrire des équations du mouvement, même pour ces quantités-là. Donc, soit des équations du mouvement pour le petit système en interaction, soit pour le gros système, mais sur des quantités qui sont plus diffuses dans ce système. Et qu'est-ce qui arrive lorsque on passe comme ça du simple au complexe? La première chose que l'on voit génériquement, c'est que les équations du mouvement deviennent irréversibles. Il y a une sorte de perte de symétrie. Les solutions qui vont dans un sens ne sont plus solutions de la même équation qui vont dans l'autre sens. Et on pourrait même interpréter ceci de façon statistique. Ça, c'est presque une question légèrement différente. En d'autres termes, le temps acquiert une flèche. Alors, comme exemple, je dirais la deuxième loi de la thermodynamique ou le phénomène biologique du vieillissement, c'est les choses qu'on voit qui sont de cette nature-là. Alors maintenant, je vais en fait faire le parallèle avec ça, avec deux grands progrès qui ont été faits dans le 19e siècle à ce sujet-là, et on va voir que ça implique de façon nécessaire la notion de hasard. Donc c'est là qu'on a été obligé de réintroduire du hasard dans la physique. Tout d'abord, la confirmation de l'hypothèse des atomes, qui était quelque chose d'assez ancien, la conception, mais on n'avait aucune évidence de cela. Et les atomes, quelque part, ils ont quand même, c'était une longue bataille, hein, même donnant lieu, à la limite, on pourrait dire, au suicide de certains physiciens aussi éminents que Boltzmann, ce problème. Parce qu'ils n'étaient pas reconnus, en fait, dans leur conception. En fait, il a fallu beaucoup travailler pour avoir cette confirmation. Et il faut dire qu'à cette époque, contrairement à aujourd'hui, il faut le souligner, on n'avait en général pas accès à l'infiniment petit. On n'avait pas accès à des systèmes vraiment simples. L'étude, ou vraiment élémentaire, c'est ceci que je devrais dire. Donc l'étude du mouvement aléatoire brownien, qui avait été découvert par un médecin en 1827, sur lequel Einstein a fait des contributions absolument essentielles en 1905, donc 1905, en plus de la relativité et du photon, Einstein fait une découverte, je dirais, qui apportera essentiellement la nourriture pour la mesure du nombre d'Avogadro par Perrin en utilisant le mouvement brownien et qui lui vaudra le prix Nobel en 1908. Donc je vais en parler un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est que le mouvement brownien? C'est le mouvement aléatoire d'une particule assez grosse comme un grain de pollen par rapport à un atome. et qu'on a pu observer, en fait, et le mouvement que Brown a observé était dû, en quelque sorte, à ce phénomène-là. Donc à une multitude de causes microscopiques que l'on ne pouvait pas suivre. Et puis ensuite, l'autre problème du 19e siècle, c'est qu'on avait deux théories pour les systèmes. Bon, on avait la mécanique pour les systèmes simples. Ils n'étaient pas élémentaires, mais ils étaient simples, puisqu'on n'avait pas d'atomes, on n'avait pas de système élémentaire. La mécanique, qui donnait des équations qui étaient réversibles. Et puis, on avait tous les systèmes complexes. Et puis, notamment, ceux qui nous intéressaient, c'était ceux qui étaient liés à la théorie de la chaleur, parce qu'on avait l'importance technologique, par exemple, des machines à vapeur. C'était donc crucial de trouver des lois pour la transformation de chaleur en mouvement mécanique. Et ceci, ça a donné lieu à la thermodynamique. Et les équations de cette thermodynamique, on pourrait dire que c'était les équations pour ces variables diffuses dans un système complexe. Elles sont de nature irréversible. Donc on avait deux types de théories physiques. On soupçonnait qu'il y avait les atomes dessous. Mais pour les atomes, on n'avait que des équations du mouvement qui étaient réversibles. Et voilà que ça donnait lieu à de l'irréversibilité quand on avait quelque chose de complexe. Donc on avait un grand problème pour unifier ces deux concepts. Et la solution, elle sera donnée par la mécanique statistique, développée par Maxwell et Boltzmann, et qui permettra d'unifier, en quelque sorte de redériver la thermodynamique à partir des lois qu'on avait pour les petits systèmes, pour les atomes. Pour ça, il faudra la notion d'ensemble statistique, donc on retrouve la statistique, qui donne lieu en fait aussi à la notion de probabilité. Et là, on a la fameuse équation de Boltzmann, hein, l'entropie proportionnelle à K log de W, où le W, c'est un nombre de configurations, un nombre de micro-états pour les microsystèmes. Alors, le mouvement brownien, bon, ben, j'ai déjà un petit peu expliqué ce que c'était. Hein. C'est une grosse particule qui est, je dirais, soumise aux collisions d'un gaz qui a une multitude de particules, impossible de décrire pour l'être humain la complexité de ce système, mais c'est une ignorance. Hein. On va supposer que chacun de ces objets quand même obéit aux lois de Newton. Et Einstein a étudié ce problème-là. Et le mouvement aléatoire, entre guillemets aléatoire, hein, de cette grosse boule sous l'influence de cette multitude de collisions. Et ce qu'il va trouver, c'est que, bon, ça c'est assez logique, hein, il y a une force moyenne de friction. C'est-à-dire que si j'essaie de bouger la grosse boule, je vais avoir une sorte de... Ces multiples collisions, ça va être équivalent en quelque sorte à un frottement intrinsèque de la boule dans le gaz, si on veut essayer de la faire bouger. Et ça, c'est une force qui est déterministe, moyenne, mais elle est irréversible, elle a une nature irréversible, elle est dissipative. Et puis une petite force de bruit aléatoire, ça c'est aussi logique, qui va décrire en quelque sorte la fluctuation de cet objet. Et ce que Einstein découvre, et c'est quelque chose qui est universel, c'est qu'en fait, à l'équilibre, alors il faut supposer l'équilibre thermique, la partie déterministe et la partie aléatoire seront irréductiblement liées par ce qu'on appelle les relations d'Einstein, qui est en fait quelque chose qui est valable pour ce système-là, mais qui est aussi générique pour des tas d'autres systèmes, donc ça a une importance très, très grande. Voilà, donc ceci, en fait, ça nous permet de faire une petite conclusion pour la fin du 19e siècle. Confirmation des liens entre le microscopique réversible et déterministe avec le macroscopique qui est irréversible et aléatoire, si je simplifie à la hache. Alors, nominalement, c'est valable pour les systèmes à l'équilibre thermodynamique, mais c'est clair que hors de l'équilibre, ça restera au moins valable. Et puis, il n'y a pas, je dirais, ces découvertes ne remettent pas véritablement en cause le déterminisme des équations de la mécanique. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui souvent est perçu de façon fausse. L'irréversibilité et l'aléatoire apparaissent en fait naturellement et peuvent être interprétées comme reflet de notre ignorance. C'est parce que nous ne pouvons pas décrire la multitude très grande que, en fait, on n'arrive pas à utiliser la mécanique. Mais de principe, cela se pourrait. Finalement, c'est ce que disait Laplace. Alors, soit c'est parce qu'on ne le peut pas, soit c'est parce qu'on ne le veut pas. Donc, dès qu'on décide d'ignorer un grand nombre de degrés de liberté microscopique, considéré comme peu pertinent, on a le même mécanisme que l'aléatoire va apparaître naturellement, mais dans la description simplifiée, pas comme une chose intrinsèque de l'univers ou des équations totales. Et pour le confirmer, je cite de nouveau un manuel de probabilité, écrit de nouveau par une personne éminente qui s'appelle Poincaré au début du XXe, et on peut lire ce qu'il dit, et il croit dans un déterminisme, je dirais, où il exprime sa confiance dans un déterminisme qui est proche de celui de Laplace. Il dit une cause très petite qui nous échappe détermine en effet considérable que nous ne pouvons pas ne pas voir, et alors nous disons que cet effet est dû au hasard. Si nous connaissions exactement les lois de la nature, alors en fait, si je prends tout ce qui suit de la mécanique, on les connaît exactement, et la situation de l'univers à l'instant initial, nous pourrions prédire exactement la situation de ce même univers à un instant ultérieur. Alors, juste pour dire, ces questions, je dirais, de comportement aléatoire apparent, c'est très commun dans notre vie de tous les jours. Ça gouverne encore notre technologie aujourd'hui. Si je prends ici, par exemple, une image de l'univers en astronomie, en fait, ce sont des signaux qui sont très bruités. À la limite, c'est même essentiellement du bruit que l'on observe ici, mais auquel on peut assigner une couleur, on peut trouver des très belles images, on peut en déduire beaucoup de choses. D'autres utilisations peut-être très courantes qui nous concernent, le radar ou la mesure. Donc il y a le problème des sources, par exemple de lumière ont toutes, même le laser d'ailleurs, un bruit intrinsèque parce qu'on ne contrôle pas totalement la complexité. Et du côté des mesures, on a ce même phénomène que les mesures. Lorsqu'on veut mesurer quelque chose, on s'aperçoit qu'il y a toujours un bruit qui est associé à ces mesures. Donc on n'arrive pas à s'en débarrasser de ce hasard. Maintenant, le XXe siècle, il va porter deux choses principales. La première apportée par Poincaré, d'ailleurs avant qu'il écrive ce que je vous ai indiqué, c'est l'effet papillon, simplement. Si on a un système, on fait juste un léger changement des conditions initiales, il existe des systèmes pour lesquels on va avoir un léger changement des conclusions, mais pas un grand. Il existe des systèmes dans lesquels ça a un effet dramatique. Et donc ceci veut dire que si on ne connaît pas absolument avec une précision infinie le début, au bout d'un temps, très rapidement, on ne pourra rien prédire sur où le système se trouve. Mais néanmoins, si on connaissait exactement le début, on pourrait prédire exactement où on se trouve. Donc ça n'est pas une véritable remise en cause du déterminisme laplacien. Certaines solutions, et ça c'est alors une deuxième découverte qui est beaucoup plus tardive, 1960, c'est le chaos déterministe, où on s'est aperçu que des systèmes avec des petits degrés, avec un petit nombre de degrés de liberté, pouvaient avoir un comportement franchement qui était hasardeux, même si les équations qui gouvernaient le système étaient parfaitement déterministes. Donc de nouveau, pas de remise en question profonde du déterminisme des équations fondamentales, parce que c'est ça qui est en question. Alors voilà, c'est juste une illustration en fait de cette découverte de Lorentz. Le chaos déterministe, c'est cependant une vraie découverte très intéressante et qui même aujourd'hui est utilisée dans certaines applications. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Dernier point concernant la physique classique, c'est des découvertes qui étaient relatives à des systèmes élémentaires ou des systèmes simples. Maintenant, concernant les systèmes complexes, il y a eu des découvertes quand même aussi fondamentales au cours du XXe siècle. Et l'une d'entre elles, bon, au niveau expérimental, c'est une découverte conceptuelle parce que les éléments physiques, on les connaît déjà depuis avant. C'est en fait le concept d'auto-organisation qui, au niveau, je dirais, philosophique, est un concept déjà ancien. Alors ça, je ne vais pas parler des transitions de phase, mais ça s'applique aussi aux transitions de phase qui sont en fait des transitions globales dans un système associées à un changement de symétrie et derrière, il y a un changement d'ordre du système, donc aussi quelque chose qui est lié au hasard, mais c'est le hasard spatial plutôt que temporel. Ce dont je vais parler un tout petit peu, c'est les structures dissipatives hors équilibre qui permettent souvent la création spontanée de pulsations ou de structures à partir du désordre. C'est une observation générique et ceci a été beaucoup mis en exergue par Prigogine, prix Nobel de chimie. Alors, des exemples de structures dissipatives hors équilibre, le laser, la vie sur Terre, ça je vais en parler un petit peu plus, le Big Bang, ou bien d'autres systèmes complexes qui sont aussi liés à nos technologies modernes, comme les automates cellulaires. Alors, donnons un exemple peut-être qui nous parlera, l'exemple de la vie sur Terre. En fait, la vie sur Terre, on vit entre une énorme source chaude, qui est le Soleil, et une énorme source froide, qui est l'univers. Et entre les deux, il y a la Terre. En fait, la Terre, elle reçoit son énergie du Soleil. Et puis en plus, ces deux systèmes, le Soleil ou l'univers, on peut les considérer comme invariables, à des températures fixes. Le Soleil, il est chaud et il reste chaud. L'univers est froid, il reste froid. Il y a un équilibre stationnaire, en tout cas sur les temps de l'existence de l'espèce humaine. Et donc, entre ces deux systèmes, ce que l'on voit à la surface de la Terre, c'est évidemment un phénomène d'auto-organisation. On a la croissance de structures, l'apparition même de la vie, quelque chose qui est essentiellement ordonné, l'être humain, quelque chose d'infiniment ordonné. Entre ces deux systèmes, bien ça c'est assez générique en fait. Beaucoup de structures dissipatives qui sont comme ça stationnaires entre une source chaude et une source froide. Si on dépasse un seuil critique, par exemple de différence de température, tout d'un coup on voit des phénomènes d'auto-organisation se manifester. Donc ça c'est fascinant en fait, et ça a fasciné beaucoup de monde, dont il y a Prigogine qui en a tiré peut-être des conclusions qui vont beaucoup plus loin que ce que je pense être légitime, parce que lui voudrait remettre en question les lois fondamentales des systèmes élémentaires, alors que personnellement, je crois que ça n'est pas nécessaire. D'ailleurs, les avancées du 19e siècle montrent, je pense que c'est plutôt une propriété du complexe, c'est-à-dire de l'addition de systèmes simples, mais pas une remise en question des lois qui gouvernent les systèmes simples. Alors voilà, la vie est un phénomène d'auto-organisation, évidemment dans une vision purement mécaniste de l'univers. Et ceci, ça donne lieu à beaucoup de philosophies. Alors ici, je recite de nouveau Jacques Monod, qui dit « Le hasard pur, le seul hasard, liberté absolue mais aveugle, à la racine même du prodigieux de l'évolution. » Je suis d'accord avec lui, en fait, en un certain sens. Cette notion centrale de la biologie moderne n'est plus aujourd'hui une hypothèse parmi d'autres possibles ou au moins concevables. Elle est la seule concevable, comme seule compatible avec les faits d'observation et d'expérience. Je suis d'accord avec lui, mais je dirais, pour moi, ça ne remet pas en question la possibilité du déterminisme laplacien quand même, au niveau logique en tout cas, je ne le crois pas. Et par contre, la citation finale, je la trouve beaucoup plus discutable. Hein. « L'ancienne alliance est rompue, l'homme sait enfin qu'il est le seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard, non plus que son destin. Son devoir n'est écrit nulle part, à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. » Et je suis d'accord en fait avec Lydia, qui disait précédemment que le hasard dont il est question là devrait avoir un grand H, et il ne me convient pas du tout scientifiquement. En fait, ici, on est face au véritable credo d'un athée, même s'il est prix Nobel. Malheureusement, beaucoup de gens ont repris ceci peut-être sans un peu trop directement. Alors, le bilan pour la physique classique. Je considère que le déterminisme est bien établi, et je crois que le déterminisme de toute cette physique est bien établi au niveau des lois fondamentales. Je ne dis pas que quand on ignore quelque chose, tout d'un coup, les choses semblent indéterminées. Il semble y avoir un hasard, mais en fait, ce hasard n'est pas intrinsèque. Hein. On peut même l'ajouter pour simuler de façon plus réaliste des causes externes ou internes, et on en a besoin pour le simuler, mais il n'est tout au fond que le reflet de notre ignorance. Et alors, je redis des choses que j'ai déjà dites avant. Ni l'existence d'aspects plus modernes comme l'effet papillon ou le chaos déterministe ou l'existence des structures dissipatives hors équilibre et l'auto-organisation ne remettent en question la validité des lois classiques déterministes. Et dans ce cadre, le hasard est bien l'expression de notre ignorance du détail, des conditions initiales ou de l'environnement, mais l'expression de notre ignorance. Alors, beaucoup de proverbes dans la sagesse, culturelle, le disent. Je n'ai pas le temps, malheureusement, d'en parler. Passons maintenant à la mécanique quantique. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour en parler. Du nécessaire changement de paradigme aux interrogations métaphysiques. Alors, la physique des objets élémentaires, au tournant du siècle et particulièrement en 1925, nous force à repenser fondamentalement la description physique des objets et de leur état. La nouvelle description qui est nécessaire pour parler de photons, d'atomes, d'électrons, s'éloigne considérablement de ce qui a fondé nos descriptions précédentes. Les ondes deviennent des particules, les particules deviennent des ondes, ou plutôt c'est un peu ont un aspect corpusculaire ou un aspect ondulatoire. Dans les deux cas, on trouve la manifestation de quanta, d'où le nom, la physique des quanta. Les points fondamentaux de cette révolution, il y a beaucoup de choses qui sont similaires, en fait, à la mécanique classique. La nature des objets, c'est décrit par l'espace de phase, et la nature de cet espace de phase n'est pas très différente. Notamment, les vecteurs de cet espace de phase décrivent l'état des objets. L'évolution du système isolé reste totalement déterministe. Donc, c'est une théorie qui va pouvoir faire des prédictions très, très précises, très, très longtemps. Le problème, il sera quand on fera autre chose sur le système. Les nouveautés fondamentales, le concept de dualité onde-corpuscule, j'en ai parlé, il existe des états de superposition, c'est-à-dire que l'état de la matière, en quelque sorte, l'état quantique décrit des potentialités lors de mesures. Il peut être unique, mais il décrit des potentialités lors de la mesure, et en quelque sorte, ça va pouvoir se manifester par le fait qu'un état physique qui pourtant est bien déterminé, est bien connu du système, un état quantique, si on le mesure, on va pouvoir mesurer soit le résultat qui est caractéristique d'un état, soit le résultat d'un autre. Et c'est là que vient le caractère probabiliste. Il y a un caractère aléatoire qui est introduit par l'observateur lors de la mesure, et c'est ça qui va choquer profondément les physiciens, et surtout que le fait que cette fois, ceci est valable même pour les systèmes simples, où il y a très très peu de degrés de liberté. C'est ça qui est différent. En fait, il n'y a pas tant de différence que ça entre la physique classique et la physique quantique. Alors bon, il y a d'autres choses, hein. Il y a les observables incompatibles, les fermions bosons, je n'ai pas le temps de parler, tout ça. Mais le succès de cette nouvelle mécanique est phénoménal. Et je crois que ça ne peut pas être sous-estimé. C'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Et cette mécanique quantique, elle est solide. Elle décrit la stabilité de la matière, la structure fondamentale du tableau périodique des éléments, la physique nucléaire, la nature du vide électromagnétique, les champs quantiques, de nouveaux effets macroscopiques absolument merveilleux comme la supraconductivité, la suprafluidité, l'effet tunnel, l'essentiel des expériences de physique du XXe siècle. On l'applique aujourd'hui depuis le microscopique jusqu'au macroscopique. Alors, les réactions immédiates, bon, formalisation et axiomatisation en 6 postulats. Une mécanique parfaitement bien définie, comme je le disais, mais un cruel besoin d'interprétation, et il en est toujours la même chose aujourd'hui. Et à ce sujet, les pères fondateurs, Einstein et Bohr, en fait, vont s'opposer jusqu'à leur mort sur l'interprétation de la mécanique et sur la complétude de cette mécanique quantique. Il y aura, en fait, il ne s'agit pas seulement d'Einstein et Bohr, en fait, d'un côté, un ensemble de contributeurs essentiels à la mécanique quantique par rapport à un autre ensemble de contributeurs essentiels à la mécanique quantique. Alors, l'ensemble de droite va s'appeler l'école de Copenhague, parce que Bohr est à Copenhague, et on pourrait dire l'école de Copenhague remporte plus ou moins le match, hein. On va voir ça pourquoi. Je dis pourquoi parce que l'épistémologie latente de la communauté des physiciens est toujours celle de l'école de Copenhague, mais je pense que ça ne la justifie en rien du tout, comme je vais essayer de le montrer. Alors là, je cite Einstein, je n'ai pas le ton en fait de vraiment parler, mais Einstein est convaincu que Dieu ne joue pas au dé, et c'est comme ça qu'il exprimera son doute dans la mécanique quantique, disons son doute de l'interprétation de la mécanique quantique et sa conviction qu'elle n'est pas complète, qu'il doit exister une théorie, et dans sa tête c'est une théorie à variables cachées, qui permettrait de l'expliquer. Alors ça prendra un peu de temps jusqu'à ce qu'il explicite cela. Alors l'école de Copenhague, en fait, c'est elle qui a donné l'interprétation probabiliste de la fonction d'onde. Les réalistes essayent d'éviter cette interprétation, même s'ils sont obligés de l'utiliser quand ils utilisent la mécanique quantique. En gros, l'école de Copenhague a une approche positiviste. Ils prétendent d'une part que la mécanique quantique est complète et d'autre part qu'il faut renoncer à décrire la réalité. Donc pour eux, finalement, la fonction d'onde n'est pas quelque chose de réel, c'est un outil de travail. Donc on a une sorte de séquence de procédures qui nous permet de prédire les résultats des expériences. Mais on ne va pas se prononcer finalement sur la réalité elle-même. Et c'est vrai que le mieux que ce qu'on peut prédire, c'est quelque chose qui est probable, donc il y a un certain hasard dans les résultats. Mais en fait, même si la théorie est ainsi, elle est complète, on ne peut pas faire mieux. Ce qui, pour le moment, est assez vrai, hein, on ne peut pas faire mieux que la mécanique quantique, encore aujourd'hui. Alors, voyons ce qu'a produit l'autre école. Alors, on peut dire que ceci, c'est comme un empirisme descriptif. On pourrait caricaturer cette école en disant « shut up and calculate ». Tant que ça marche, ça va. Hein. C'est un peu comme les gens qui jouent à la bourse. Tant que ça marche, ça va. Il faut dire que la dernière production de cette école, c'est le principe de complémentarité en 1927. Et depuis ce moment-là, je crois que... ces gens-là, peut-être qu'on a progressé au niveau philosophique et épistémologique un tout petit peu, mais en tout cas au niveau de la physique, on n'a pas progressé. Ça n'est pas une attitude qui a donné lieu à du véritable progrès. Je dirais même qu'elle a inhibé le progrès. L'autre école et la majorité des physiciens ont cette épistémologie latente. On peut le comprendre pourquoi ? Parce que la mécanique quantique marche. Alors après, allez-vous hasarder dans des discussions philosophiques ? On n'a pas besoin. Effectivement, actuellement, encore aujourd'hui, on n'a pas besoin parce qu'elle n'a été mise en défaut nulle part. Il y en a qui pensent qu'il faut faire mieux. C'est notamment Einstein. Et pour ceci, ces gens-là vont mettre sur pied une série de paradoxes pour essayer de montrer la faiblesse de cette interprétation de la mécanique quantique. Et là, il y aura le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen en 1935 qui va jouer un grand rôle et qui va en fait donner lieu, mais après un énorme temps de latence, aux inégalités de Bell, puis à des expériences récentes qui nous permettent de conclure à l'existence d'un vrai hasard quantique intrinsèque dans la nature, apparemment. Puis un hasard qui a encore des propriétés particulières parce qu'il est non local, ce qui est en quelque sorte quelque chose de très choquant, je crois, pour le sens commun, pour les physiciens. Et certainement, Einstein n'y aurait pas cru, mais l'école positiviste ne l'a pas investigué non plus, même si elle était d'accord sur ce point-là. Pourquoi ? Parce que, quelque part, il était bien occupé à autre chose. Il y a eu, dans le groupe de théories réalistes, bien d'autres théories qui ont tout leur intérêt. Certains, parce que ces gens-là essayent d'éviter le hasard, hein, et donc on trouvait des théories déterministes, mais un coût énorme du point de vue conceptuel. Je ne vais pas trop donner trop de détails. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de contributeurs, de variantes, beaucoup de subtilités dans les résultats. Une chose à noter, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès expérimental depuis ce temps-là, et en fait, peu de controverses sur les résultats expérimentaux, quasiment aucune controverse, parce que la mécanique quantique marche tellement bien, c'est vraiment mieux qu'une montre suisse, c'est vrai.
Et puis aujourd'hui, on est même dans une situation luxueuse parce qu'on peut faire avec des systèmes simples toutes les expériences de pensée que les pères fondateurs avaient imaginées. Elles sont réalisables, on peut les vérifier. Et ça tient la route. Et en plus, on a de merveilleuses applications qui viennent de cela. Donc, le fait de réfléchir à cette mécanique quantique, c'est très très important. Alors, Bell, en fait, une des avancées décisives, je n'ai pas le temps d'en parler, je suis désolé, je suis en train de dépasser un tout petit peu mon temps. Bell, en 1964, a trouvé, à l'aide d'un argument élégant et qui n'est pas très compliqué, un moyen de trancher si le programme d'Einstein était faisable, de trouver une théorie locale, réaliste, à variable cachée. Et en fait, on a pu faire l'expérience en 1982 et puis en 2001 sur des distances, je dirais, macroscopiques, et pour s'apercevoir qu'en fait, il n'existe, en quelque sorte, le programme d'Einstein n'est pas réalisable du tout. Ça ne veut pas dire qu'Einstein avait tort, hein, parce qu'en fait, lui, il avait déjà, en quelque sorte, il avait déjà vu ce programme, en quelque sorte, même si la façon de s'en sortir il pensait qu'on s'en sortirait d'une certaine façon et ce programme-là n'était pas possible. Alors, le résultat, c'est qu'en fait, la mécanique quantique est brillamment confirmée. Alors, pour ça, on émet une paire de photons corrélés. Ces photons peuvent voyager à de très grandes distances. Alors, de nos jours, c'est de l'ordre de dizaines de kilomètres. Et lorsqu'on fait des mesures et puis qu'on les regarde de côté, on a des résultats aléatoires qui sont conformes aux prévisions de la mécanique quantique. De l'autre côté aussi, c'est aléatoire. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que ces deux aléatoires sont complètement corrélés l'un avec l'autre. Si on a une occurrence d'un côté, on a l'occurrence de l'autre. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe entre ces deux systèmes? Et on peut montrer aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se transmet de l'un à l'autre. On est en quelque sorte face à un seul objet dans la paire. Un seul objet. On peut faire des expériences néanmoins sur une partie à un endroit, sur l'autre partie avec l'autre. Et ce qu'on fait sur l'un, en quelque sorte, c'est comme si ça influençait directement sur l'autre sans qu'il y ait rien qui passe, même à la vitesse, même plus vite que la vitesse de la lumière entre eux. Donc ça remet en question profondément des concepts de la physique, mais c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait établi. Ça ne remet néanmoins en question ni la relativité, ni d'ailleurs le réalisme, bien qu'il soit toujours un sujet de débat, mais ça remet en question le concept de localité auquel Einstein croyait. Parce que lui, il avait rétabli la localité dans la théorie de la gravitation. La physique, depuis ce moment-là, est devenue non locale. Alors voilà, on fait aujourd'hui des expériences sur de très grandes distances. Justement, une des personnes qui a fait cette expérience, et d'autres en fait à suivre, c'est Nicolas Gisin, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'impensable hasard », que je vous invite à lire parce qu'il est vraiment, je dirais, accessible à tout le monde. C'est une personne extrêmement connue et respectable, c'est un des spécialistes mondiaux, il est le premier récipiendaire du prix John Bell, il est préfacé par Alain Aspect lui-même, et c'est quelqu'un que j'ai le privilège de connaître d'ailleurs depuis assez longtemps. Alors maintenant, c'est dramatique, hein. La situation est dramatique, donc... À l'examen, la non-localité quantique apparaît très complexe, elle est totalement aléatoire, il s'agit d'un vrai hasard fondamental, corrélé, non local, ne faisant intervenir ni communication, ni préenregistrement, ni cause commune. On a donc un nouveau renversement de paradigme, et là je cite Nicolas Gisin qui cite lui-même Popescu et Horlich, on a donc un nouveau renversement de paradigme. Au lieu d'affirmer avec Einstein que Dieu ne joue pas au dé, nous devons maintenant nous demander plutôt pourquoi est-ce qu'il joue au dé? Pourquoi est-ce qu'il y a cela? Et on a pu progresser, de nouveau avec des preuves qui font parfois pas plus de 10 lignes, que l'impossibilité, que la source du vrai hasard, c'était l'impossibilité de communiquer sans transmission et l'existence de cette non-localité de la physique. Mais par ailleurs, Einstein avait quand même beaucoup raison sur pas mal de points. Alors là, je vais encore discuter quelque chose que Nicolas Gisin discute. Quel échappatoire reste-t-il ? Il en reste une, c'est l'hyperdéterministe, en fait, à la Laplace. Mais à ses yeux, il s'agit d'une grossière erreur d'épistémologie. En quelque sorte, donnez-moi l'hamiltonien de l'univers, je pourrais parfaitement calculer son évolution. Personne ne sera là pour le mesurer, puisque c'est l'hamiltonien de l'univers. Et actuellement, personne ne peut remettre en question cela, d'une façon logique. Donc, quelque part, il est toujours possible d'être laplacien, même avec la mécanique quantique. Et à ce moment-là, il n'y a plus de hasard. Donc, je crois que la mécanique quantique ne nous remet pas en question fondamentalement autant qu'on pourrait l'imaginer sur ce point-là. Et d'ailleurs, Nicolas Gisin le dit, hein, lui, il trouve que c'est, il n'est pas du tout d'accord avec ça, pour une raison très claire, c'est qu'il existe le libre arbitre, et il vient logiquement avant la science, la philosophie et notre capacité à raisonner. Certaines théories physiques sont déterministes, telles que par exemple la mécanique de Newton ou certaines interprétations de la mécanique quantique. Élever ces théories à un statut de vérité ultime, quasi-religieuse, est une simple erreur de logique, puisque cela est contredit par notre expérience du libre arbitre. Et ensuite, il va précisément faire référence à Laplace. Donc, il identifie cet hyperdéterminisme quantique à la position de Laplace. Alors, malheureusement, je n'ai pas la possibilité de parler du théorème de non-clonage. La chose que je voudrais dire, c'est que le vrai hasard et la non-localité, qui sont notre expérience à nous tous les jours, parce qu'on n'est pas Dieu, on n'est pas l'intelligence de Laplace, on est dans la situation où on doit faire face avec ce vrai hasard et cette non-localité. Et on peut la mettre à profusion pour toute une série de choses absolument extraordinaires qui sont à venir. On vit une époque exceptionnelle en termes de physique. On peut faire de la cryptographie quantique, de l'information quantique, de la téléportation quantique. Il est possible de téléporter les états quantiques. Et ça a une utilité technique et ça aura une utilité technologique, la téléportation quantique. Mais bon, pour le moment, on ne sait pas si on peut téléporter de gros objets, mais je veux dire l'information relative à de gros objets, mais la téléportation est une réalité. Et puis le calcul quantique, ça aussi, c'est, je dirais, c'est établi, mais on ne sait pas si on va pouvoir réaliser des systèmes qui seront utiles ou intéressants, mais c'est une réalité. Alors, beaucoup de gens spéculent, je n'ai pas le temps d'en parler, j'en viens aux conclusions. Donc, l'édifice de la physique est extrêmement solide. Le déterminisme, l'anti-hasard comme achèvement naturel de la physique, ça reste toujours un objectif. Encore aujourd'hui, toutes nos questions, c'est parce qu'on veut éliminer ce hasard. Si on veut relier des causes à des effets, c'est le commencement de la science. En physique classique, intrinsèquement déterministe, le hasard est invoqué pour couvrir des causes inconnues. En physique quantique, on a pu établir que du côté de l'expérience humaine, il existait un vrai hasard et une non-localité qui sont largement acceptées. Voilà, je ne veux pas redire des choses que j'ai déjà dites. Productivité précisément de la volonté d'une interprétation réaliste. Voilà, j'ai tout dit, j'en viens juste à ma confession de foi. Je pourrais dire avec ces gens-là, Einstein et Peyron, que le hasard, c'est le déguisement que prend Dieu pour voyager incognito, en tant que croyant. Je pourrais aussi suivre Calvin, qui dit, notamment dans son passage sur la Providence dans l'institution chrétienne, « Rien n'est l'effet du hasard ». Tout est soumis à la providence de Dieu. En fait, ça c'est juste une expression de la prescience de Dieu qui est clairement affirmée dans l'Écriture, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Il y a la théorie de la prédestination, j'y crois, mais pas la double prédestination de Calvin quand même. L'Écriture me semble claire, donc, non seulement à propos de la prescience de Dieu, mais à propos de quelque chose qui est contradictoire, qui est le libre arbitre de l'homme. C'est ce qu'exprimait Nicolas Gisin, qui est quelque chose quand même d'essentiel dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la pensée scientifique. Quelque part, on propose des idées, on les teste, et ceci, c'est le résultat de notre volonté. Je veux peut-être pas en parler. Mais la foi chrétienne n'est donc pas non plus exemple de paradoxe. La quête du sens et de l'amour, aussi la culpabilité, l'expérience de cette culpabilité que je fais tous les jours liée à mes imperfections, ça me jette existentiellement dans les bras du Dieu d'amour. Parce que lui seul peut répondre quelque part à cette expérience que j'ai tous les jours avec une réponse qui me semble cohérente par rapport à cela. Et maintenant, comment est-ce que je résous ce paradoxe, et peut-être aussi le paradoxe de la physique un petit peu comme ça? L'hyperdéterminisme à la Laplace, moi je pense que c'est quand même quelque chose qui est très logique, autant en mécanique classique qu'en mécanique quantique, et il peut se comprendre en fait dans le cadre de la préscience de Dieu. En quelque sorte, seul Dieu est autorisé à prendre ce point de vue. Pour nous, en tant qu'êtres humains, ça ne nous reste pas accessible, ça nous reste caché. Ce point de vue des choses, ce point de vue du décor qui est celui de la position, même pas de l'observateur, c'est le créateur, ça nous reste caché à jamais. Par contre, le libre arbitre me semble être le point de vue accessible à l'homme par excellence et même utilisé par Dieu dans son dialogue avec nous. Il nous appelle à faire usage de notre volonté, par exemple. Mais si on accepte le libre arbitre, il faut accepter cette apparence pour l'homme du hasard dans la vie, qu'il y a évidemment, mais pour le croyant, ce hasard, c'est Dieu. Et pour le non-croyant, il doit aussi faire face au hasard. Donc, heureusement, finalement. Voilà, j'ai terminé.